La question d'Israël.
Les sages nous ont appris que le peuple d'Israël est en exil pour récupérer les étincelles de sainteté. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Et deuxièmement, comment les ramener?
Ok, concrètement, c'est pas concret parce qu'on parle de notions métaphysiques, mais on va en parler du peu qu'on peut en parler.
Et ça voudrait dire là-dessus que justement le peuple d'Israël, en dehors de sa terre, a un rôle vis-à-vis des nations.
Ouais. C'est écrit que Béné Israël sont partis. C'est écrit dans le Talmud, ne parle pas de choses métaphysiques. Il est toujours très, 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 très terre à terre. Le Talmud dit que Béné Israël, les fils d'Israël, sont partis en exil que pour ramener les âmes des convertis. Mais le secret plus profond qui sous-tend cela, c'est amener les étincelles de sainteté. On va expliquer ce que c'est. À l'origine, il y avait un homme, Adam, et sa femme. Dans l'âme de Adam se trouvaient inclus toutes les âmes du peuple juif. 600 000 âmes, dont nous sommes des particules. Il y avait plus de 600 000 juifs aujourd'hui sur Terre, il y en a eu beaucoup plus durant toute l'histoire. Donc chaque juif est une particule, une partie d'une de ces 600 000 âmes. Un millième, un dix millième, une moitié, d'accord? Des grandes âmes, des petites âmes. Mais toutes étaient incluses dans l'âme du premier homme, Adam. Lorsque Adam, il avait un job à faire, venir sur Terre, il a été créé le vendredi, et Dieu lui a ordonné de tous les fruits du paradis tu peux goûter, cet arbre-là tu ne goûtes pas. Le jour où tu goûtes, tu meurs. Évidemment, il ne s'agit pas d'un jardin avec des fruits, il s'agit de choses beaucoup plus, de notions métaphysiques, très hautes. Il avait une Torah pratiquée, parce que Dieu lui a dit, à propos du jardin, il a dit « l'ovda ou les shomra ». L'ovda, c'est le servir, ce sont les lois positives. Les shomra, le garder, c'est les lois négatives. D'accord? Comme c'est marqué dans la Torah, quand c'est marqué « ishamer », fais attention, garde-toi, c'est un ne pas, c'est une loi négative. Ou l'ovdo, on devra servir Dieu, c'est positif. Donc là, on parle du jardin d'Éden. Il y avait un certain job métaphysique à faire. Le premier homme est venu ici pour se réaliser. Il avait un libre arbitre. Il devait faire ce job et tenir jusqu'à l'entrée de Shabbat. Il a été créé, sa création a commencé à 2e heure du vendredi. Il reçoit la conscience. C'était déjà la 5e heure, si je me souviens bien. 5e heure du vendredi, c'est-à-dire 11h du matin. Il devait tenir 7h. Il tenait, qu'est-ce qui se passait à ce moment? Quand Shabbat rentrait, il avait réussi son job et tout son être, avec toutes les âmes incluses en lui, s'unissait à la divinité pour une vie de béatitude éternelle. C'était le pourquoi et le comment de toute la création du monde. Il a été pris d'une envie extrêmement puissante de pécher.
Péché, mais il y avait quelque part un côté de faire un petit peu plus, de vouloir se rapprocher un petit peu plus encore, non?
Peut-être. En tout cas, une envie très grande. Peut-être aussi sous-tendue par un argumentaire, comme toujours. Quelqu'un, il veut aller pêcher avec une fille, il dit, bon, après tout, c'est interdit, mais bon, ce sera plus calme après, je pourrais mieux étudier. Enfin, on peut trouver des bonnes... Le premier homme était quand même un homme de calibre extraordinaire. La mystique juive dit que sa tête était déjà dans la divinité. Il ne fallait plus que le corps monte. La tête était déjà dans la divinité. C'est marqué, le Talmud dit qu'il voyait d'un bout du monde à l'autre. C'était un homme d'une carrure extraordinaire. Et il pêche. Quand il pêche, donc non seulement le job qu'il aurait dû faire n'a pas été fait, mais en plus, il descend à un niveau beaucoup plus bas que son niveau initial. Qu'est-ce qui se passe? Lui et tout le monde qui a été créé pour lui, parce que le fleuron de la création, c'est l'homme. C'est pour lui que le monde est créé. Dieu n'a pas créé le monde pour les vaches ou pour les papillons. Il a écrit pour qu'il y ait un être humain ayant la conscience et les arbitres le serve. Tout le reste du monde, à part l'être humain, sont des êtres sans les arbitres. Les minéraux, ni les végétaux, ni les animaux, ni les anges ont libre arbitre. Le seul qu'il a, c'est l'être humain.
Dit que l'être, enfin que Adam Arishon au départ, donc l'être humain, donc il a pas eu la notion de Ève qui était.
Quand je parle de Adam, c'est Adam et Ève, c'est pas. C'est Adam, ça, c'était un au début.
Ouais, ouais. Donc par rapport à ça, les étincelles de sainteté, comme vous dites, enfin, les 600 000 Neshamot, tout ça, tout, elles étaient partie intégrante donc d'Adam Arishon, mais ensuite Ève à ce moment-là aussi a récupéré une partie.
Adam et Ève, c'est un être. Comment ça se passe au niveau de la sélection des âmes, j'ignore, mais c'est un être à la base. D'accord ? Ils sont créés un, après Dieu les a séparés. Donc, étant donné que le monde a été créé pour l'être humain subit une dépression terrible de millions de milliards de mondes qui vont faire que ces âmes, qu'est-ce que c'est qu'une âme ? Une âme, c'est un potentiel de vie. Un corps sans âme, c'est un corps mort. Qu'est-ce que l'âme lui rajoute ? De la vie. Bien sûr, il y a différents niveaux d'âme. Tu as la vie physique, tu as la vie aussi spirituelle, une vie spirituelle petite, plus grande, énorme, d'accord ? Ces parties de vie, ces 600 000 parties de vie, sont tombées extrêmement bas dans des mondes qui n'auraient même pas dû exister. Des mondes de mort, en fait, des mondes morts. Et que se passe-t-il quand la vie tombe dans la mort ? Ben, elle donne vie à la mort. Ça fait des morts vivants. On appelle ça le mal. Le mal, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des créatures qui, à la base, n'avaient pas droit à la vie. Elles sont mortes. Mais par les péchés, ou aujourd'hui du peuple d'Israël, ou à l'époque du premier homme, reçoivent des parcelles de vie. Et on leur donne vie. Des Frankenstein, des Dracula, des Hitler, des Staline, des Titus, des... Aujourd'hui, il y en a beaucoup, beaucoup dans le monde, il y en a toujours eu. Ok ? Depuis le premier homme. Comment se fait-il qu'il y a tellement de mal, alors que Dieu est bon ? Dieu a créé le libre-arbitre et a donné aussi la possibilité que par libre-arbitre, on détruise. Il y a des limites, bien sûr. Faire sauter la Terre, planète Terre, chose qui est possible aujourd'hui, n'aura pas lieu. Dieu veut que la Terre continue. Okay ? Donc Dieu, il peut mettre des hauts là. Mais il les met très, très, très loin. La marge libre-arbitre de l'homme, elle est énorme. Le Midrash, il dit que les Rechaim sont appelés Mokdei Olam, les incendiaires du monde. On peut incendier le monde entier. Dieu peut laisser faire dans une certaine mesure. Tu vois que Dieu n'a pas hésité à un moment à faire le déluge. Le monde, c'est-à-dire que l'humanité, le déluge était une chose légitime. Dieu a fait les choses avec justice. L'humanité s'est comportée de façon tellement mauvaise qu'elle a légitimé un déluge. Donc, il y a eu beaucoup de mal dans le monde. Et Dieu a proposé une période de 2000 ans durant laquelle l'humanité pouvait se hisser au niveau de l'homme avant le péché originel, à son niveau initial lorsqu'il a été créé. L'homme connaissait la Torah. Quand je parle de la Torah, ce n'est pas la Torah que nous connaissons. J'ai un autre cours, ce n'est pas tout à fait le sujet maintenant. Il faut comprendre que la Torah, il est écrit que Dieu étudie la Torah. Les anges étudient la Torah. Le premier homme étudie la Torah. Qu'est-ce qu'il faisait dans le paradis ? C'était quoi ? Servir le jardin et le garder. C'était beaucoup, beaucoup études de Torah. Mais ce n'est pas la même Torah qu'aujourd'hui. C'est clair que c'est marqué que Dieu, il met les tefilines. Il n'a pas des petites boîtes de peau comme ça, noires, comme nous on a. Ce n'est pas le même texte qu'on a écrit. Il y a un autre texte, d'ailleurs, qui est l'Agmara. Donc, Brachot dit quel texte est écrit là-bas. Quand on parle de Torah, on parle de 613 lumières spirituelles qui, chez Dieu, sont dans leur nudité de lumière, mais qui, lorsqu'elles descendent de chez Dieu, s'habillent avec des habits différents. Dans le monde des anges, elles auront des habits, ces lumières sont habillées d'un habit spirituel que les anges reconnaissent. Dans d'autres mondes, elles auront d'autres habits. Dans le monde de l'homme hanté, avant le péché originel, c'était certains habits, après d'autres habits, à l'époque d'Abraham Avinu, encore d'autres habits, et nous, on reçoit une Torah de Moshe Rabbeinu. Et quand Moshe reviendra, ce sera encore une fois d'autres habits aussi. J'ai toujours l'exemple de H2O, de l'eau. L'eau, c'est H2O, deux molécules d'hydrogène pour une molécule d'oxygène. Donc je montre à un novice, à un enfant. Je lui montre maintenant un glaçon, je lui montre de l'eau et je lui montre de la vapeur. Je lui dis, qu'est-ce que tu vois ? Il me dit, je vois trois éléments, ce sont les mêmes ? Il me dit, non. Un chimiste me dira, c'est exactement les mêmes. Mais on parle, ces éléments se trouvent dans une configuration, dans un monde différent. Un monde froid, un monde tempéré et un monde chaud. C'est la même chose. simplement dans des configurations différentes. Idem la Torah. Tu as la Torah, c'est H2O, 613 mitzvot. Dans le monde de Dieu, elles prennent une certaine... Elles s'expriment d'une certaine façon, dans leur nudité, dans leur lumière essentielle, comme elle est vraiment. Mais dans d'autres mondes, elle prendra une autre configuration. C'est pour ça que la Torah va nous raconter la création du monde, puis les échecs de l'humanité. La Torah n'est pas une histoire, n'est pas un bouquin d'histoire. On aurait dû raconter aussi la situation de Sumer, et qu'est-ce que j'en sais, Gangikan, et qu'est-ce que j'en sais. C'est pas un bouquin d'histoire. Alors pourquoi elle nous raconte maintenant la création du monde, Adam, le déluge, Sodome, Gomorre, Abraham? C'est ok, c'est intéressant, mais c'est pas le sujet, quoi. Si tu fais, ou décide, ou t'as un bouquin d'histoire, un bouquin de Torah. Torah, c'est les lois, qu'est-ce que je dois faire? Quel est le but? Exactement, c'est un bouquin de Torah qui vient m'expliquer le but, mais aussi le pourquoi du but. Elle va m'expliquer maintenant l'histoire de ces âmes. L'histoire du monde qui a amené que la Torah, aujourd'hui, elle a cette allure. Qu'est-ce qui s'est passé? Durant 2000 ans, l'humanité, bien qu'elle connaissait la Torah, Adam a enseigné la Torah à ses enfants. Et les enfants enseignaient à leurs enfants aussi. Et il y avait une tradition de grande Torah. On aura Noé, son fils Shem, son petit-fils Ever. Yaakov Avinu a étudié dans la yeshiva de Shem Ever. Il y avait une continuation de cet enseignement de Torah. Jusqu'à Avraham Avinu. Avraham Avinu est né en 1948, donc proche de la fin de l'an 2000, depuis la création. Pendant cette période de 2000 ans, l'humanité, au lieu de se rapprocher de Dieu et de réparer, est allée d'échec en échec. Déjà, le petit-fils de Adam a commencé à faire l'idolâtrie, la civilisation d'Enoch. À l'époque, le Midrash dit que Dieu a englouti un tiers de l'humanité. D'ailleurs, on voit au niveau... historique, d'accord, on voit tout. Tu vas dans la montagne à 4000 mètres où tu trouves des coquillages. Un coquillage à 4000 mètres, qu'est-ce qui se passe? On dit, oui, à l'époque, il y a eu des tsunamis, des engloutissements, etc. Donc ça correspond à ce que dit le Midrash. Ensuite, il y a eu le déluge, il y a eu Sodome et Gomorre, il y a eu la tour de Babel, et arrive Avraham Avinu. Avraham Avinu, qui est le premier homme et le seul pendant 2000 ans, qui a réussi à se hisser au niveau. Qui a réussi à réaliser la mission de Dieu, d'arrêter l'idolâtrie, d'arrêter le sacrifice d'enfants, d'arrêter de voler, d'arrêter toute la débauche sexuelle, d'accord, tous ces choses-là qui étaient très très, de faire beaucoup de recettes de bienfaits, d'être bon avec son prochain, d'honnêteté. Et a fait connaître le Dieu d'Israël, enfin à l'époque, le Dieu d'Abraham, le Dieu unique à l'humanité. Et il s'est hissé à ce niveau du premier homme initial. Cette période de 2000 ans est appelée la période des racines d'âme. À l'époque, les âmes étaient des âmes encore très très grandes. Les racines d'âme. Dans chaque racine d'âme, tu as en potentiel, comme une graine d'orange, tu as en potentiel des millions d'oranges, d'accord? Ces âmes avaient en potentiel des millions de petites âmes qui devaient en sortir, qui étaient pas des racines, mais déjà des fruits. La période des racines s'arrête après 2000 ans. Et Dieu fait un bilan, et il voit que seulement Avraham Avinu est arrivé. Il dit, ok, alors maintenant la descendance d'Avraham Avinu, Avraham et sa descendance, les fruits qui sortiront de cette racine, seront au niveau de l'homme avant le péché originel, et le reste pourront, tant qu'ils voudront, durant toute l'histoire, aussi ici à ce niveau. Mais vu que leur racine pour le moment n'y est pas arrivée, alors ils sont au niveau où ils sont. Ça veut dire que chaque être humain peut, qui qu'il soit, peut se hisser à ce niveau-là et faire partie de ce groupe de personnes qui a une mission spéciale. Quelle est cette mission? Il reste encore beaucoup de parties d'âme qui sont prises dans les forces du mal par les mitzvot, et c'est pour cela que la Torah nous a raconté toute l'histoire du monde, pour nous expliquer pourquoi ces 613 lumières peuvent se réaliser aujourd'hui dans la configuration du monde que nous avons, elles se réalisent comme il est marqué dans la Torah. Par exemple, tefilin. Comment on fait tefilin? Alors on prend des petites boîtes de peau, on écrit un certain texte, on en met sur le bras, on en met sur la tête. Chazal nous dit que Yaakov Avinu, comment il a fait la mitzvah de tefilin? Lorsqu'il avait les troupeaux de son... Il a pris une partie des troupeaux et il voulait que les troupeaux naissent tachetés, etc. Donc il a pris des bâtons qu'il a pelés. En forme de tache ou de rayure, d'accord? Chazal nous dit, c'est comme ça qu'il a fait la mitzvah de tefilin. Ça veut dire quoi? Donc la lumière de Tfilin, il y a une lumière qui s'appelle la Mitzvah de Tfilin, c'est une lumière. Elle se réalise, d'après la configuration du monde, de certaines façons. Aujourd'hui que la Torah a été donnée, elle nous dit comment on fait, c'est comme ça. Après l'époque messianique, 40 ans, après l'époque messianique, début de l'époque messianique, il y aura une résurrection des morts. Il y aura une autre dimension. Peu à peu, l'humanité va rentrer dans une dimension métaphysique. Il n'y aura plus de Tfilin avec une petite boîte, mais la Mitzvah restera toujours. Même Dieu met les Tfilin. Ces lumières-là restent. Mais comment est-ce qu'on amène cette lumière sur nous? Ça dépend de la configuration du monde. La Torah nous raconte maintenant comment on est arrivé au point où, aujourd'hui, c'est Am Israël, par l'accomplissement des 613 mitzvot, qui va faire en sorte d'amener des lumières divines dans le monde, qui, au contact de la lumière divine qui est prise dans la force de mal, tac, va retirer la lumière qui se trouve dans la force de mal. Le mal meurt, il n'a plus de vie, et la vie repart vers le haut. Le job d'Am Israël est cela. Ramener l'étincelle de sainteté. La Kabbalah dit qu'on a ce job, à faire durant toute la période qui est pré-messianique, enfin toute l'époque de l'exil. Quand la dernière partie de vie, d'accord, étincelle de vie, partie d'âme, qui se trouve prise dans le mal, remonte à sa place, Mashiach y vient. C'est pour ça que le Mashiach peut arriver à chaque seconde, parce qu'on ne sait pas où est le compte exactement des étincelles. Surtout qu'il faut dire que quand on fait un péché, ben, on fait retomber l'étincelle dans le mal. D'accord? Tous les mots qui expriment le mot péché en hébreu expliquent. Il y a la notion de flux divin qui descend, mais au lieu d'arriver à sa place, faire l'action qu'il doit faire, peut faire retirer la lumière pour que la mort reste sans vie et meure, et qu'il n'y ait que le bien dans le monde. C'est le contraire qui se passe. On fait descendre le flux dans la mort et on le laisse là-bas. Donc on a pris du flux divin, on l'a remis dans la mort. Pécha, c'est péché en hébreu. Pécha, ce sont les lettres, c'est les permutations des lettres Shefa. Shefa signifie un flux d'abondance. Mais quand tu permutes, c'est le contraire. C'est de l'abondance qui a été tordue, qui est partie, l'abondance qui est partie du côté à l'envers, du côté, l'autre côté, du côté négatif. Chet, chet signifie péché aussi, involontaire, signifie en bon hébreu, chet signifie raté. Tu as raté la cible. Donc, cette lumière venait maintenant pour faire un certain travail, un certain job ici sur Terre, elle a raté. Elle est partie du côté à côté, elle est happée par les forces du mal. Ça donne la puissance au mal. C'est pour cela que lorsque Bnei Israël se comporte mal, alors tout à coup, les forces du mal deviennent très très fortes et peuvent attaquer Israël. Les petits enfants croient, c'est une punition. Ce n'est pas une punition. C'est une conséquence du fait qu'on a donné beaucoup, par le péché qu'on a fait, on a donné beaucoup de lumière aux forces de mal, beaucoup de vie. Elles sont puissantes. Comment pouvons-nous faire en sorte que ces lumières quittent le mal? Il y a trois façons. Ou empêcher en faisant des mitzvot, on reprend les parties de mal et on amène un flux, d'accord, chez nous, et les parties de mal, les parties de bien qu'il y a dans le mal, quand elles voient la lumière, elles se collent à la lumière et elles remontent. Il y a la tshuva, c'est une sorte d'opération assez magique. Que quelqu'un qui a pris une partie de son âme, c'est pour sa propre âme, d'accord, une partie de sa propre âme, il a fait un péché, qui est parti dans le mal, maintenant, tu vois, c'est Tashuv Hei, reviendra le Hei. Hei, sa dernière lettre du nom de Dieu. On dit que ça correspond à la Shrina, la présence divine, qui est en exil. Ce sont ces parties d'âme qui partent dans le mal. La source, elle reste à la source, mais c'est les parties, la dernière lettre, qui, elle, va et qui est en exil, qui est happée par le mal. Tashuv Hei signifie reviendra le Hei. Tshuva. Comment on fait Tshuva? Par le fait qu'une personne dise à Dieu qu'elle a péché, qu'elle regrette, qu'elle prend sur elle de plus jamais faire ce péché, automatiquement, l'étincelle, la partie d'âme qui était dans le mal, hop, elle revient à la Kedusha, dans le côté de la sainteté. Deuxième façon, troisième façon, la pire, c'est que la puissance qu'on a donnée au mal se déverse. Le mal utilise toute cette puissance-là et fait le mal. Et fait le mal. Alors c'est des problèmes, c'est des bombes qui éclatent, c'est des maladies, c'est des pogroms, c'est des guerres, c'est des divorces, tout le mal qu'il y a dans le monde qui se déverse. Et le mal, il ne peut pas déverser son mal de façon infinie. Il a un potentiel. Ce potentiel correspond exactement au nombre d'étincelles de bien qu'il a. C'est sa force, c'est sa puissance. Alors il va déverser tout le mal qui correspond à la puissance de bien, de vie qu'on lui a donnée, et quand on n'a plus de vie, ben, la vie, elle est repartie. Le mal a été annulé. Il a déversé tout son mal, il est annulé. Donc, trois façons. Ou bien par nos mitzvot, ou bien par la tshuva, ou bien par la souffrance. Et c'est ce job que nous devons faire durant tout l'exil. Maintenant, pourquoi en exil? Pourquoi pas avant? Avant aussi. T'as une question?
Ouais, par rapport à ce que vous dites. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau de la création du bien, elle est déjà en fait arrivée à son maximum, et on récupère le mal pour le transformer en bien. C'est pas par exemple, quand on fait une mitzvah, on crée pas quelque part une nouvelle force de bien, on récupère une force du mal qu'on transforme en bien.
Les deux. Les deux. On amène un flux sur nous qui nous construit, et par cela aussi, on dégage des étincelles qui sont prises, qui sont captives.
Alors, c'est bien, quoi. C'est pas un bien qui est déjà absolu et qu'on.
On crée du bien et on libère du bien. Maintenant, je voudrais expliquer tous les mots. Je vais continuer peut-être aussi expliquer tous les mots qui expriment le mot péché pour montrer à quel point c'est ce principe. Il y a 10 sphères. Quand on touche la sphère la plus haute, on touche le Keter. Keter, c'est la couronne. C'est toucher très très haut. C'est les péchés graves, d'accord? Tels que Shabbat, tels que la relation sexuelle, tels que manger à Kippour, d'accord? Pas le porc, c'est moins grave. Karet, ce sont les choses très graves, on touche vraiment la couronne. Maintenant, si on fait une permutation déjà du mot karet, ça fait du mot keter, ça fait karet. Karet, retranchement de l'âme, on a touché au niveau du keter. Keter, c'est la couronne. Donc, de nouveau, permutation, ça veut dire qu'on va à l'envers, on va pas comme ça doit aller. Qu'est-ce que c'est encore pour mot pour des rachats? Un rachat, c'est quoi? Un mécréant. Il fait tout le contraire, il permute de nouveau quoi? Esser. Esser, c'est 10. Il y a un ordre des 10 sphères qui amène le flux. D'accord? Dieu, c'est des voies de conduite. Et certes, ce sont des voies de conduite par lesquelles Dieu amène le flux. Racha, c'est quelqu'un qui a tout fait à l'envers dans les 10. Il fait le. La pagaille. Il sème la pagaille. Question encore comme mot. Chet, pecha, avon. Avon vient du mot aivut, c'est tordu. Et de nouveau, le flux va à un endroit tordu. Donc, c'est cette notion-là. Dans le peuple d'Israël, depuis la terre d'Israël, avec l'aide du temple qu'il y avait à Jérusalem, par son action en Israël, pouvait aspirer à distance toutes les étincelles de sainteté éparpillées dans le monde entier. On étudie la Torah ici, on étudie le filet, on a des sacrifices au temple. Par ces actions-là, on a amené des étincelles qu'il y avait partout, en France, au Maroc, au Japon, en Chine, en Mongolie. D'accord? Partout. Mais en Israël ne s'est pas bien comporté en terre d'Israël. On commençait à faire des péchés. À force de dépêcher, leur capacité d'exporter, d'aspirer les étincelles à longue distance, c'est affaibli. Comme un aspirateur, d'accord? Un aspirateur tout beau, tout nouveau, il y a un truc ici à 1 mètre, il aspire. Au bout d'un moment, 50 cm, au bout d'un moment, tu mets devant, il n'y a plus rien. Il faut vraiment le mettre dedans. C'est ce qui s'est passé. La faculté d'aspiration à distance des étincelles de Kedusha, c'est amoindri. Un point tel que Dieu nous a dit, écoutez, le job, il faut le faire. Donc vous partez maintenant sur place. Allez ramener l'étincelle de sainteté. Si nous voulons aujourd'hui peupler la terre d'Israël, qu'est-ce qu'il faut faire? La majorité des Juifs veulent habiter Israël. Ils n'arrivent pas. Pourquoi? Ils ont encore des parties d'âme qui sont à l'endroit où ils sont. En France, en Amérique, en Floride, je ne sais pas, n'importe où. D'accord, tu as des Juifs qui sont là-bas. Ils ont encore un job à faire. Pourquoi ils ne reviennent pas? Il y en a beaucoup qui aimeraient revenir. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Ils sont bloqués sur place. Dieu les empêche parce que ton job, il est là. Quel est le meilleur moyen d'amener les Juifs en terre d'Israël? Se renforcer dans la sainteté. Études de Torah, mitzvot, tshuva, toutes ces choses-là font fait que tout le job qu'il doit faire, il le fait. Au bout d'un moment, il ne supporte plus l'endroit où il est et il part. Alors lui, c'est comme ça qu'il ressent, mais c'est Dieu qui le prend et qui dit « Ok, ton job est terminé, tu rentres, bye bye, à la maison. » Actuellement, nous sommes en phase de fin d'exil. La grosse majorité des étincelles ont été déjà récoltées. Il reste encore un tout petit peu. Baou Hashem, grâce au mouvement de tshuva, ça a lieu de façon très accélérée, parce qu'un bal tshuva, il fait un travail énorme. Non seulement il ramène étincelles de ses propres péchés, mais aussi de tous ses gilgoulim, de toutes ses réincarnations passées. Donc un bal tshuva, pour ça qu'il a des au début, c'est très dur de faire tshuva. Tu as la famille qui est contre, et tu as la copine qui n'est pas contente, et c'est pas facile, d'accord, c'est très dur. Mais il fait un boulot énorme de ramener étincelles de sainteté, pas non seulement de son gilgoulim, de sa réincarnation, mais des fois de 20, 30, 40 réincarnations qui vont avoir toutes avec son âme à lui. Et d'aimer les convertis. Aujourd'hui, tu as beaucoup de convertis. Comment ça se fait? Eux, ils ont l'endroit où ils sont, il y a certains, ou dans leur âme, il y a certaines parties d'âme du premier homme qui veulent maintenant rentrer à la maison. Donc, ils sentent une pulsion irrationnelle de vouloir devenir juif. Mais pourquoi? Tu peux aussi servir le Dieu d'Israël en étant un noachide, un non-juif peut servir à droit au monde à venir, au monde à venir, en pratiquant cette loi noachide. Non, je veux être juif. Je me sens juif. C'est quelque chose tout à fait irrationnel. Ça prouve qu'il a en lui une étincelle de ce type-là qui le colle au peuple juif. Une étincelle du premier.
C'est Ça veut dire aussi qu'un juif qui se retrouve à l'extérieur des Eretz Israël aujourd'hui, mais qui justement dans son lieu habituel de vie ou quoi que ça soit, se sent presque mal et ça veut dire presque qu'il n'a plus rien à faire là-bas et qu'il devrait revenir en Israël.
Idéalement, il doit revenir, il doit tout faire pour. Si ici, il ne fera pas, parce qu'il y a un problème, très souvent les gens viennent en Israël, hélas trop souvent aussi dans le monde francophone, très souvent, ils deviennent moins religieux en Israël qu'à l'étranger. Et là, c'est pire. Ça, c'est un coup du Yetzirara. C'est que là-bas, le potentiel d'action à l'étranger est beaucoup plus petit qu'en Israël. Parce que là, on est dans le palais du roi. À l'étranger, on est à l'extérieur. Quelqu'un qui fait une bêtise loin du palais du roi, c'est moins grave que de le faire en face du roi. D'accord ? Quelqu'un qui fait, sauf votre respect, il fait une flatulence. D'accord ? Dans la rue. Dans la capitale du roi. Bon, bah, le roi ne veut pas qu'on fasse dans sa capitale des flatulences. Bah, je lui fais une flatulence, personne n'a fait attention, c'est pas grave. T'es en face du roi, tu le fais comme ça en face du roi. Mais on te coupe la tête. T'es ici à Yerushalayim, t'es en face du... En Israël, et spécialement à Jérusalem, on est en face du roi, dans le palais du roi. Le péché en Israël est beaucoup plus grave qu'à l'étranger. La mitzvah est beaucoup plus grande. Donc quelqu'un qui monte en Israël pour grandir en Torah, alors c'est énorme. Parce que la Torah que tu avais à l'étranger était petite, ici elle devient beaucoup plus grande. Celui qui fait des péchés en Israël, c'est aussi beaucoup plus grave. Donc des fois, c'est le Sérat qui tombe en Israël pour, au contraire, t'enfoncer encore plus. Donc il faut que ce soit une aliyah. Aliyah signifie montée, mais pas qu'une montée physique, une montée spirituelle. Et là, on a gagné le gros lot. De temps en temps, il va encore repartir, prendre l'avion, parce qu'il y a encore quelques petites étincelles à ramener. Mais une fois qu'il est là, il est là, terminé.
Beaucoup plus grave, vous ne pouvez pas faire des... Enfin, excusez-moi du terme... des bêtises dans la famille que de faire des bêtises à l'extérieur.
La famille, pourquoi la famille? Tu parles de la famille?
Enfin, la famille, c'est-à-dire...
Le palais du roi, ici, la présence de Dieu.
Vaut mieux que ça soit entre nous et que ça soit fait à l'extérieur, les bêtises, non?
Je crois entre nous et à l'extérieur, je comprends pas ce que tu veux dire.
C'est-à-dire parmi les goyim, ici, se comporter...
C'est autre chose. Il y a aussi, on n'a pas le droit de faire du chilul Hashem, de profaner le nom de Dieu, ça c'est autre chose. Moi je dis, maintenant, géographiquement, ici, il y a une différence entre l'étranger et la terre d'Israël. La terre d'Israël, c'est un endroit où il y a une providence divine spéciale. La présence de Dieu est là beaucoup plus qu'à l'étranger.
Mais justement, enfin, à l'étranger, il y a le problème qui est encore plus important. Donc la personne avait encore plus dans la touma quelque part.
C'est vrai. Donc on conseille aux gens de quitter l'étranger, de venir en Israël, mais pas tout le monde peut. Pas tout le monde a fini son job. Et ils doivent venir en Israël dans une optique de monter. Et pas de maintenant on est entre juifs, ça va, j'ai pas le danger d'assimilation, ben je vais pépère.
Il a plus de chances ici de remonter justement.
Il a plus de chances de remonter, il a plus de chances de redescendre. Il y a les deux. Ici, il y a du Yetzer Hara, Dieu a créé le libre arbitre. Donc il est impossible qu'il y ait beaucoup de Gdoucha sans que c'est beaucoup de Touma. Tu remarqueras qu'à Evéville, par exemple, autour du temple, à tous les endroits saints, autour des qu'il y a en Israël, autour, tu as de l'impureté. C'est toujours comme ça. Toujours comme ça. Parce que l'impureté, elle suce toute sa matière de vie de la pureté. C'est exactement ce qu'elle veut. Donc elle se met autour. Donc quand quelqu'un veut se rapprocher de la pureté, c'est très bien, mais il faut savoir qu'il se met en danger. Pas en danger, il n'y a rien de marqué. Tout celui qui grandit, son SRA grandit aussi. Dieu veut laisser le libre arbitre. Donc quelqu'un vient en Israël, il doit venir dans l'optique de se tenir bon, parce qu'il y aura beaucoup d'épreuves pour le faire descendre. C'est clair. Les Israéliennes sont bien plus belles que les Uruguayennes. Ben voilà, ça suffit déjà. Ou françaises. Ken.
Il y a quelqu'un qui n'est pas religieux qui va venir en Israël, qui va déconseiller.
Ouais. Oui, mais encore une fois, il fait maintenant son retour devant le roi. Si le fait de venir en Israël peut empêcher qu'il y ait une assimilation, peut le pousser à faire tchouva, alors peut-être oui. Chaque cas, il faut vraiment voir. Des fois, quand on est en Israël, des fois, beaucoup de gens, par le fait de venir en Israël, ils se réveillent, ils font tchouva. Mais beaucoup aussi pas. C'est vrai. Dans quelle mesure ? Quand on, au niveau de l'assimilation du mariage mixte, quelqu'un qui est pratiquant et commence à pratiquer moins, son fils moins, son petit-fils moins, son petit-fils encore moins, ça prend 3-4 générations pour que le petit-fils se marie avec une non-juive. 3-4 générations d'habitude. En gros, pour que la grosse majorité de la famille soit assimilée. Pourquoi si lent? Parce que, quelque part à l'étranger, on se sent juif, il y a une communauté, et on sait qu'on est différent des non-juifs, et il y a une sorte d'anticorps qui nous dit « Ok, il y a nous, il y a eux. » Un Israélien n'a jamais eu ça. Il ne sait pas c'est quoi un non-juif. On est entre nous. Il mange, il ne fait pas attention de manger kasher ou pas, mais il mange kasher sans le vouloir. La viande non-kasher, il faut la chercher en Israël. Normalement, il va à n'importe quel restaurant, c'est une viande qui est kasher, d'accord? il vit avec une fille, bah, 99% de chances qu'elle soit juive. D'accord ? Oui, mais bon, j'ai 99%, j'ai 1% aussi d'arabes et de russes, d'accord, avec qui peu, mais russes non juifs, ou 2 ou 3%, peu importe. Mais une grosse majorité, plus de chances de tomber sur une juive que de tomber sur une non-juive. Donc lui, il va à l'étranger. Il va étudier un an à Princeton, d'accord, là-bas. Et lui, il voit une non-juif, mais aucun problème, parce qu'il n'a pas l'anticorps non-juif-juif. Manger, bah, il mange, est-ce qu'il mange, comme il mange la fac ici, il mange la fac là-bas. Pas cacher, il n'a aucune importance. Donc, le travail que prend le Hetzara pour faire qu'une famille religieuse en France devienne goy 4 générations, se fait ici en Israël tout aussi rapide. Le type, il est en Israël, il prend l'avion en 4 heures, il est là-bas. Donc, c'est pas forcé. Quand on est en Israël, on empêche l'assimilation, à condition que la descendance restera ici en Israël. Mais très souvent, ils veulent aller voir d'où viennent mes parents, d'accord. Et très souvent, combien tu as d'Israéliens en Amérique aujourd'hui? 3, 4 millions, 5 millions, au moins, je ne sais pas, un grand chiffre. Qui sont out. La majorité sont out, total. Donc la solution qu'on estime à venir en Israël, elle est... Faut voir.
Quand vous dites qu'il n'a pas fini son job,
oui.
C'est son job personnel vis-à-vis de ouais. l'environnement
ou... Oui, personnel. Les étincelles, chacun, il a des étincelles de Neshama lui appartenant que lui et lui seul peut ramener.
Si on ne fait pas ça, c'est qu'on a raté quelque chose.
Oui.
Même si on a fait tout Torah et Mitzvot.
Oui. La Kabbalah dit que quelqu'un, tant qu'il n'a pas ramené toutes les étincelles qu'il doit ramener, tout ce qu'il doit faire, tout le potentiel que son âme doit faire, n'a pas fait, il revient en Gilgoul, il revient en réincarnation.
Mais est-ce que c'est au niveau de sa pratique, au niveau de ses midotes, au niveau
tout,
de son comportement de...
Tout.
Ça doit être physiquement ou comme on peut poser une graine en posant une idée dans la tête de quelqu'un et inversement, ça peut être juste moralement. On a posé un jour une graine, on s'en est pas rendu compte, on est parti, on a fait le chouva, on a fait la lire, on a fait tout ce qu'on veut. Peut-être cette personne, elle s'est rapprochée
ouais.
sans même qu'on y soit.
Ouais.
Tout doucement, quoi.
Ça fait partie des actions que ton âme doit faire qui sont certainement aussi inconscientes. Tu as parlé à quelqu'un, tu as voulu. Il y a une expression de ta neshama, mais est-ce que tu as tout fait? C'est ça la question. Et des fois, le vrai danger du Gilgoul, de la réincarnation, c'est que des fois, on est venu pour réparer un peu et on casse beaucoup. Le vol. Tu as volé quelqu'un, tu as volé, c'est marqué. Tout celui qui vole une prouta de son prochain, c'est comme s'il a volé son âme. Pourquoi son âme? Parce que l'argent qu'une personne a sont les outils qu'il a reçus pour faire le tikkun de son âme. On donne l'argent à quelqu'un en fonction du tikkun, du job qu'il a à faire sur terre au niveau métaphysique. Donc maintenant, quand tu lui prends un centime, tu l'empêches de faire son job sur terre. Donc lui doit revenir en Gilgoul pour recevoir ça de nouveau, cette partie d'âme, et la réparer. Et le voleur qui a fait ça, et qui a maintenant une partie d'âme qui n'est pas la sienne, donc il ne peut pas réparer, doit revenir maintenant aussi sur terre pour la restituer à son propriétaire. Pour un centime, on revient en Gilgoul, c'est terrible.
C'est la rapport de l'argent et le travail.
J'ai dit que l'argent, ce sont tous les biens que nous avons, ce sont les outils que Dieu a mis à nos dispositions pour faire le tikkun de notre âme. Car aucun don qui est physique pour physique. Tout ce que nous avons de physique, c'est pour un but métaphysique. Baruch Adonai, l'homme va m'aimer.